L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
Bonjour, bonjour, c'est Vignée Papille numéro 7. Aujourd'hui, on va parler de l'évolution de la consommation du vin en France et dans le monde, de la situation de la filière viticole dans le contexte économique et des pistes d'évolution sur les années à venir. C'est donc la deuxième partie de l'interview d'Olivier Legrand, donc le directeur général du Conseil interprofessionnel des vins du Languedoc, que tu avais rencontré, Bertrand, il y a quelque temps.
Oui, une interview extrêmement riche. Donc nous avons abordé la dernière fois les bases de l'organisation de la filière viticole. Et aujourd'hui, effectivement, il va nous parler de cette évolution de la consommation de vin. Et puis, quelles perspectives aussi pour cette filière. Et côté musical, je crois qu'on va faire un tour du côté des Blues Brothers,
c'est ça ? On va faire, Matinée Blues Brothers avec Aretha Franklin et Ray Charles.
On retrouve Olivier Legrand. Du point de vue des consommateurs de vin, quelles sont les évolutions récentes? Qu'est-ce qu'on peut constater? Il y avait toujours à une époque cette espèce de frontière entre les soi-disant connaisseurs et puis les autres. Il y a peut-être aussi une question de génération qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, on a une vision un petit peu sur l'évolution des goûts des consommateurs et sur l'évolution de la demande?
Alors, Sur l'évolution de la consommation, la consommation, il faut vraiment distinguer souvent la consommation des pays un peu traditionnellement producteurs, dont le niveau de consommation était historiquement haut, hein, l'Italie, l'Espagne, la France, et qui a tendance à baisser dans le temps, ce qui est naturel, hein. On est passé du vin boisson à un vin plaisir, d'une certaine manière. Il faut se rappeler que dans les années 60, nos parents buvaient, nos grands-parents peut-être, buvait 130 litres par an et par habitant, hein, c'est énorme.
Aujourd'hui, ah oui, quand même.
Voilà. Alors aujourd'hui, on est descendu à 30 litres, ce qui semble être à un moment une espèce de moyenne un peu qu'on va peut-être pouvoir voir sur tous les pays s'établir. Donc là, effectivement, on est sur une approche où le vin a toujours fait partie finalement de l'environnement des consommateurs. Et chez les jeunes consommateurs, c'est vrai qu'on voit une baisse de la consommation du vin. Il faut qu'on apprenne à leur reparler de ce produit qu'ils ont peut-être eu tendance à considérer comme un produit très, très un peu statutaire, finalement très représentatif des générations de leurs parents ou leurs grands-parents. Donc il faut leur montrer aujourd'hui effectivement que ce produit est aussi un produit moderne et qu'il sait s'adapter. Alors ce qui est drôle, c'est que finalement, cette approche du vin, elle n'est pas la même dans d'autres marchés, comme les marchés anglo-saxons, où pendant longtemps, il y a eu cette découverte de ce produit qui, pour ces pays-là, est un peu exotique, et donc qui touchait beaucoup plus les nouvelles générations. Finalement, c'est quelque chose d'assez ancien, mais les jeunes sont toujours attirés, ou les gens sont toujours attirés par ce qu'ils n'ont pas finalement chez eux, et par la découverte. Et voilà, on a ça, c'est ce qui a porté aussi les exportations de vin français, c'est cette soif dans de nombreux pays de la part de gens de découvrir le vin. Et puis en France, on a affaire à cette déconsommation qui est structurelle, qui s'accompagne aussi de gens qui vont, on le dit souvent, moins consommer, mais sans doute mieux consommer, être plus exigeant sur les vins qu'ils recherchent, plus pointus. Est-ce qu'on a encore cette distinction entre les connaisseurs et les autres? Je dirais oui, mais en même temps, je crois qu'il faut être lucide. Aujourd'hui, les connaisseurs du monde du vin, c'est peut-être 5% des consommateurs. Être un connaisseur, c'est vraiment connaître les appellations, les cépages, etc. C'est quand même un segment très, 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 très ciblé des consommateurs. Aujourd'hui, on a des gens qui consomment du vin parce qu'ils ont envie de se faire plaisir. De la même manière que si vous aimez le fromage, on ne vous demande pas de connaître les 500 et quelques fromages français par cœur et toute leur composition, ben voilà, on ne peut pas demander aux consommateurs d'être un parfait connaisseur des produits. Aujourd'hui, là où on doit porter notre accent, c'est de montrer que le vin est un produit facteur de sociabilité, un produit plaisir. Et voilà, c'est cette image qu'il faut qu'on arrive à remettre en tête des jeunes consommateurs.
Est-ce qu'il y a des évolutions que l'on constate dans la consommation des couleurs de vin? On a parlé récemment d'un grand engouement sur les rosés, qui était presque considéré pas comme du vin à une époque.
Alors oui, il y a eu des évolutions. Alors, déjà, il y en a eu aussi pour le vin rouge. Aujourd'hui, on parle souvent des vins rouges un peu plus légers. C'est vrai, et ça a sans doute peut-être aussi à faire avec l'évolution, le réchauffement climatique. Hein. On veut peut-être boire des vins rouges au printemps un peu plus légers quand il fait déjà chaud. Alors, c'est une tendance qui était déjà assez ancienne, hein, qui a commencé il y a une vingtaine d'années. Pour ceux qui connaissent le monde du vin, il y avait un très grand critique qui s'appelait Robert Parker, qui pendant des années, qu'on a accusé de vouloir faire modifier le goût du vin, parce qu'il aimait les vins plutôt boisés, un peu structurés. Et ça fait 20 ans qu'on a vu sur les différents marchés, au contraire, les gens revenir à quelque chose de plus digeste, voilà, avec moins de boisé, moins de lourdeur dans les produits. Donc ça, on est vraiment sur cette évolution. Et puis sur les couleurs, ces dernières années, effectivement, un retour en puissance du rosé. Là aussi, je pense que l'effet météo joue à plein. Ça fait l'objet un peu de la curiosité, comme une nouveauté finalement dans le monde du vin. Donc on a eu vraiment un très fort engouement sur le rosé qui semble un petit peu toucher aujourd'hui un peu un plafond de verre. Les vins blancs aussi, évidemment, sont très demandés. Donc on a vraiment ces deux couleurs qui tirent quand même la consommation, les vins rouges étant un peu plus à la peine.
Et puis ça a permis de faire découvrir aux Languedociens qu'on ne faisait pas du rosé qu'en Provence aussi, peut-être, parce que beaucoup de vignerons se sont mis à en faire, alors que ce n'était pas forcément leur fer de lance, il me semble.
Exactement. C'est encore un des combats qu'on a à mener, effectivement, c'est de montrer que le Languedoc est loin d'être la région un peu monocolore qu'on lui prête encore. Quand j'en parle, hein, les gens sont très étonnés de savoir qu'aujourd'hui, le Languedoc, c'est à peu près... peut-être une bouteille sur deux en vin rouge, mais quand même une sur trois en rosé, et puis quasiment 20% en blanc. Ça, les gens ne le savent pas assez. Je suis très content quand je déguste des vins du Languedoc de leur montrer la qualité des vins blancs sur des appellations comme Picpoul, évidemment, Limoux, ou même quand c'est plus confidentiel sur Saint-Chinian ou Faugère en blanc.
Aujourd'hui, on voit de la bière sans alcool, on boit du café décaféiné, on a des yaourts allégés, des tas de choses dont on a enlevé plus ou moins des composants, et donc on commence à parler du vin sans alcool. Alors, le vin sans alcool, est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a un avenir pour la filière là-dedans? Est-ce qu'on peut s'attendre à un vrai engouement comme ça a été le cas pour la bière, par exemple?
Alors, vaste sujet qui est parfois encore un peu polémique, hein, y compris dans le monde du vin, parce que c'est relativement nouveau. Alors, petit point juridique, normalement, on ne devrait pas parler de vin sans alcool, puisque par nature, le vin est issu de raisins fermentés, donc avec de l'alcool. Passé ce petit préambule, je vais continuer à parler de vin sans alcool pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle. Mais effectivement, c'est une tendance qu'on a vu naître, qui aujourd'hui pose question à certains. Je pense qu'il faut là-dessus avoir deux éléments en tête. Le premier, c'est finalement, on ne sait pas encore très bien à qui s'adresse le vin sans alcool. Il est évident que pour l'instant, quand on fait goûter du vin sans alcool à des gens qui sont amateurs, connaisseurs ou buveurs réguliers de vin, il y a toujours quelque chose qui est de l'ordre, pas de la déception, mais voilà, de se dire c'est pas le vin que je consomme habituellement et je ne le reconnais pas. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que quand on fait des études sur le vin sans alcool, notamment auprès des jeunes, il y en a eu il n'y a pas longtemps, les jeunes eux-mêmes disent... Finalement, non, Le vin, il doit y avoir de l'alcool, c'est un peu consubstantiel au produit. Donc le vin sans alcool, ils ont l'impression que c'est plus tout à fait du vin. Bon. Et c'est là où on se dit finalement, il faut peut-être penser le vin sans alcool, non pas pour une boisson qui s'adresserait à des consommateurs de vin, mais qui permettrait de toucher d'autres consommateurs qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas avoir d'alcool et qui leur offrent effectivement cette possibilité de découvrir le produit, voilà, et pas forcément mettre en opposition l'un et l'autre. C'est un complément. Alors, le deuxième élément à garder en tête, c'est que c'est sans doute un segment qui va se développer, mais si on prend là-dessus l'exemple de la bière, qui a quelques années d'avance sur nous, il faut se dire que c'est pas un segment qui aura des débouchés illimités. Aujourd'hui, la bière sans alcool, ça a commencé il y a 30 ans, hein, largement. Il faut se rappeler quand même que ça avait été mis en place par les grands brasseurs, notamment au moment de la loi Evin, parce que ça leur permettait de continuer à parler de bière et d'essayer de communiquer
Sur leur marque.
Sur leur marque, voilà, en échappant aux fourches codines de la loi Evin. Et aujourd'hui, on voit que la part de marché de la bière sans alcool, elle est quasiment stable depuis ces dernières années, et elle représente entre 7 et 10% des ventes totales de bière. Bon, bah, donc si vous faites le parallèle aujourd'hui...
Ce qui n'est pas négligeable non plus.
C'est pas négligeable, mais ça ne sera pas sans doute le déferlement que l'on pense habituellement, et c'est sans doute pas l'avenir du vin. Ça sera une niche significative, effectivement, qui permet de continuer à vendre du vin et à développer le monde du vin, mais qui représentera sans doute, voilà, même à son apogée, 7 à 10% des ventes.
Un vigneron, c'est d'abord un agriculteur. Aujourd'hui, on parle de la disparition des fermes, des exploitations agricoles en France. On en a perdu quasiment 20% dans ces 10 dernières années. Est-ce qu'il y a un problème de transmission des exploitations dans le monde de la vigne et du vin ?
Alors, il y a oui et non. Il y a parfois un problème de transmission lié aussi au coût d'accès au foncier, hein, qui est parfois très, très élevé, très cher, donc c'est un vrai investissement. Et je dirais qu'aujourd'hui, le problème de renouvellement des générations, il est plus dû au manque de perspective pour un jeune qui s'installe que vraiment, j'allais dire, par manque d'attractivité intrinsèque du monde du vin en tant que tel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune qui s'installe, effectivement, il va souvent devoir s'endetter, et ceci, on l'a dit tout à l'heure, avec des perspectives de production qui seront soumises aux aléas climatiques. On en parle souvent, mais il y a encore 10 ans, sur 5 années de production, vous en faisiez une mauvaise, 3 normales et une très bonne. Aujourd'hui, là, on a vu, nous, ces dernières années, les 5 dernières années, on a eu à peine une année normale. Hein, et les autres années ont toutes été, effectivement, soumises à des accidents climatiques. Donc vous avez cet aspect-là, est-ce que je vais pouvoir assurer ma production dans de bonnes conditions ? Et puis, de l'autre côté, tout l'environnement géopolitique, économique dont on parlait, donc découlant de sa production. Donc aujourd'hui, elle est vraiment sur cette niveau de crainte. Donc il y a beaucoup de dispositifs qui sont faits pour accompagner les jeunes qui souhaitent s'installer, pour leur faciliter encore une fois l'accès au foncier. Là où on voit le renouvellement, il se fait quand même beaucoup, il reste dans le monde du vin très assuré par des transmissions familiales, les familles de vignerons se perpétuent avec les nouvelles générations, et puis on a un phénomène qui est vraiment très spécifique au monde du vin et très très fort dans notre région, qui sont les néo-vignerons, c'est-à-dire des gens qui ont eu d'autres parcours professionnels, qui viennent d'autres milieux, ou qui viennent du monde du vin mais qui souhaitent s'installer dans la région pour des raisons diverses et variées, encore une fois aussi parce que ici le coût d'accès du foncier est sans doute moins élevé que s'ils allaient en Bourgogne ou dans d'autres régions où c'est beaucoup plus spéculatif, et on a ici toute une nouvelle frange de producteurs, alors, qui sont en plus hyper intéressants parce qu'ils apportent très souvent d'autres visions. Parce qu'ils sont à la fois français, ils peuvent être étrangers, anglo-saxons, ils ont eu d'autres parcours professionnels, donc ils apportent aussi finalement une forme de nouveauté, de dynamique dans les appellations, parce qu'ils apportent un regard souvent neuf.
On voit aussi parmi ces néo-vignerons se développer aussi des espèces de micro-productions. Des gens qui s'installent, qui font, comme ils disent souvent, du vin de garage avec 3 cuves, 4 cuves. On voit aussi des régions qui ont été délaissées, mais où il y avait de la vigne et où on en replante. Est-ce que là, il n'y a pas aussi quelque chose qui est en train de naître et qui sort un peu des sentiers battus ? Je ne sais pas, c'est juste une question très ouverte.
Oui, il y a cette espèce de fourmillement... Qui pourrait presque faire penser aux startups d'une certaine manière, effectivement, de gens qui vont chercher les micro-points de différenciation qu'ils peuvent avoir, que ce soit effectivement de faire renaître un vignoble qui avait disparu, de replanter des cépages ancestraux aussi, qu'on avait aussi parfois fait disparaître pour des raisons diverses et variées, parce qu'à l'époque, ils n'étaient finalement pas suffisamment qualitatifs, et qu'aujourd'hui, on a retrouvé des conditions de faire des vins qualitatifs sur cette base-là, de faire effectivement des micro-productions. On trouve ce fourmillement, et c'est ce que je disais tout à l'heure sur cette résilience du monde du vin français. C'est que c'est pas seulement une résilience, j'allais dire, un peu de combat où on se met dans sa carapace, c'est aussi, et on le lit sans doute pas assez, un fourmillement d'idées et d'initiatives qui fait qu'on a tous les jours effectivement des choses, des gens qui tentent des nouvelles choses, que ce soit dans la recherche de nouveaux terroirs, de nouveaux cépages, de nouvelles méthodes de vinification, des vinifications en amphore, des trucs comme ça, et qui renouvellent sans cesse le monde du vin, mais tout en restant très fidèle, et ça c'est super important, à l'identité du vin français et du vin languedocien.
Et donc, est-ce que ça fait partie un peu des forces d'avenir? Et si on devait résumer un petit peu les forces et les faiblesses aussi de cette filière pour les années à venir, quels seraient les principaux points à retenir?
Alors, c'est drôle parce que ce qui fait finalement une des principales forces de la filière vin en France, c'est ce qui a été considéré aussi comme sa faiblesse, c'est-à-dire finalement cette atomisation. Je crois qu'on n'en a pas parlé, mais le CIVL, on regroupe en notre sein plus de 2000 producteurs, 150 caves coopératives, 200 maisons de négoce. Donc, juste à l'échelle du Languedoc, on est plutôt structuré dans le monde du vin français avec une myriade de producteurs, de caves coopératives, de négociants, là où pendant longtemps le vin du Nouveau Monde a été porté encore une fois par des entreprises un peu majeures qui pouvaient faire des gros investissements marketing, etc., une visibilité pour le consommateur. Mais en même temps, à un moment, le consommateur de vin, il est comme tout consommateur, il aime bien aussi découvrir des choses, et la complexité du vin français, c'est aussi l'assurance de pouvoir essayer sans fin des nouveaux vins, même au sein d'une appellation, même au sein de la France. Donc finalement, on offre ce foisonnement de découvertes qu'on est quasiment les seuls à pouvoir offrir. J'aime pas en général parler, on dit souvent innovation et tradition. Moi, c'est pas dire grand-chose. En revanche, innovation en respectant l'identité, oui, voilà. Et en respectant ce qu'a été notre vin, la qualité, l'identité du vin français, elle a toujours évolué. Il y a toujours eu ces évolutions. Ça n'a jamais été figé dans le temps, c'est un truc incroyable, mais quand vous regardez effectivement, même sur un siècle, il y a beaucoup de changements dans tous les domaines. C'est un monde qui est en perpétuelle évolution, donc est capable de s'adapter au mieux, d'adapter ses produits. Et puis encore une fois, je pense, comme peu de pays, de satisfaire la curiosité des consommateurs.
Donc c'est cette absence presque totale d'uniformisation qui donne un petit peu cette richesse, et le fait que le consommateur aura un choix quasi infini tout le temps.
Oui, je crois que pour moi c'est une force, et encore une fois, il ne faut pas nier que c'est notre principale faiblesse, il suffit d'aller voir un rayon vin français quand vous êtes à New York, effectivement, puis vous placez-vous dans la tête d'un New Yorkais, et quand il voit toutes ces étiquettes de régions qui pour lui ne doivent pas évoquer grand-chose. En même temps, vous regardez le rayon vin italien, c'est pareil, mais au moins, il y a de la vie, il y a de la diversité, il peut tenter des choses, à des prix qui sont en plus souvent très abordables quand on compare, si je suis aux États-Unis avec les vins californiens, alors que quand vous regardez les vins chiliens ou australiens, il y a quand même moins cette capacité de découverte. Donc oui, c'est notre très grande force, et en même temps une petite faiblesse.
Donc c'est sur cette capacité de résilience qu'on va se quitter. Bien, merci en tout cas de nous avoir accordé cet entretien. J'espère que les choses seront beaucoup plus claires maintenant pour les auditeurs de Radio Sainte-Afrique. Et puis je vous dis peut-être à une prochaine fois.
Merci Bertrand, à bientôt.
Voilà, j'espère que nos auditeurs ont les idées un petit peu plus claires aujourd'hui sur les enjeux de la filière viticole et tout ce qui en découle. Je remercie encore Olivier Legrand de nous avoir consacré tout ce temps. Et puis nous quittons en musique, je crois, Christine.
Oui, avec Ray Charles, Shake Your Tail Feathers, qui fait partie du film Blues Brothers, qui était un régal absolu, autant pour les images, l'histoire à mourir de rire, que la musique fabuleuse. Au mois prochain.
Au revoir.
Well, I heard about the fella you've been dancing with all over the neighborhood. So why didn't you ask me, baby? Or didn't you think I could? The
know.